c'est parti. À quoi est-ce qu'il faut renoncer quand on crée ? Il y a une remarque de mon invité d'hier, Antoine Compagnon, dans son livre et dans l'émission qui ne cesse de m'interpeller. C'est cette idée qui participe de ce qu'il appelle le sublime sénile. Cette idée que la visée de l'artiste, ce serait au bout du compte d'atteindre l'essentiel. À la fin, à la toute fin, on se libère des contraintes, on se dépouille de tout ce qui dépasse, on a la confiance, la maîtrise et l'autorité pour n'écrire que ce qui compte. Ce qui implique de supprimer, de soustraire, de savoir se passer de toutes les fioritures. Et j'ai pas su réagir sur le moment, mais s'il y a un artiste qui me vient à l'esprit ce matin, c'est bien Eric Satie, dont on sait qu'au fur et à mesure, sa musique s'épure. Petit à petit, au cours de sa vie, il renonce à l'effet, aux couleurs, aux harmonies. Il tend vers la plus grande simplicité, vers la plus belle concision, vers un langage qui ne reposerait que sur quelques touches et quelques images. Au sujet d'un ballet auquel ils ont tous les deux participé, Jean Cocteau écrit de Satie cette si belle phrase. Écœuré de flou, de fondu, de superflu, des garnitures, des passe-passe modernes, et souvent tenté par une technique dont il connaît les moindres ressources, Satie se privait volontairement pour tailler en plein bois, demeurer simple, net, lumineux. Chaque nouvelle œuvre de Satie est un exemple de renoncement. Et je me pose la question, et si c'était ça, le cœur de la création ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui fait dans la simplicité. Il est britannique, musicien, chanteur et producteur et s'est imposé comme le prince d'une pop minimaliste et grisante qui a déjà conquis Kendrick Lamar, Beyoncé, Jay-Z et consorts. Friends That Break Your Heart, son cinquième album vient de paraître. De la délicatesse, des harmonies, des sonorités hip-hop et des rythmes qui font battre le cœur. Bonjour, James Blake.
Hi.
Merci beaucoup. Merci d'être là. Je me suis demandé, parce que je pense que c'est essentiel chez vous, comment on atteint la simplicité quand on crée ?
Eh bien, je pense que cela commence par l'état d'esprit. Lorsque je ne pense pas simplement, je ne vis pas simplement, j'ai tendance à créer des morceaux compliqués et parfois à en ajouter trop, en faire trop. Et je pense que cela reflète généralement l'état de mon cerveau. Si mon esprit reste tranquille et en paix, alors en général, je peux composer simplement et efficacement.
Alors ça veut dire qu'on est pur, qu'on jette, qu'on élague.
C'est intéressant. Je pense que j'ai tendance à en rajouter plus souvent.
Parce que la question que je me pose au fond, James Blake, c'est ce qui fait l'essence d'un morceau.
Je pense que c'est une sorte de résonance naturelle de la personne qui compose et qui joue. Je pense parfois que le résultat, si c'est le bon moment, dans le bon espace, alors vous pouvez vraiment émouvoir. Et c'est généralement la base sur laquelle la chanson est construite.
Mais le point de départ d'une chanson, par quoi ça commence ?
Eh bien, pour la plus grande partie, mes meilleurs morceaux commencent au piano, en improvisation, une sorte de petit moment que j'entends. Et je me dis, ah, ça pourrait être le début de quelque chose.
Le piano, quel instrument est-ce que c'est pour vous, James Blake ?
Eh bien, c'est la base sur laquelle la plus grande partie de ma carrière est construite. C'est généralement le point de départ et très souvent le point d'arrivée. En général, je commence une chanson de cette façon, mais aussi quand je ne sais pas comment la finir, je retourne au piano et je la réécris ou j'ajoute le piano à l'instrumentation. Et en général, ça le fait.
Et puis, à vous écouter, j'ai l'impression quand même que c'est aussi un instrument percussif, profondément lié au rythme. En quoi la musique, pour vous, c'est peut-être avant tout une affaire de rythme ?
Oui, le rythme est évidemment important. Je pense qu'il reflète votre... C'est comme une empreinte ADN, n'est-ce pas ? Le rythme, la mélodie, l'harmonie sont une sorte d'empreinte ADN de vous-même à ce moment-là. Et je suis certain que vos rythmes corporels entrent en ligne, d'une certaine manière. Quel tempo vous ressentez à ce moment-là ? Quel type de mesure vous ressentez à ce moment-là ? Est-ce que vous sentez syncopé ce jour-là ? Ou est-ce que vous sentez... Je pense que ça reflète beaucoup de vous-même.
Mais comment on trouve le bon rythme, James Blake ?
Je suis influencé par beaucoup de musique où le rythme est l'épicentre et parfois la chose la plus importante du morceau. Donc, en grandissant, j'étais influencé par le dubstep et aussi par beaucoup de musique soul et aussi j'étais influencé par la techno et beaucoup de ces genres qui sont très axés sur le rythme. Le batteur dans la musique soul, c'est le cœur. Je suppose que c'est l'un des composants essentiels. Et le groove et le feeling qu'ils transmettent, généralement sur toute la palette de leurs sentiments sur les pistes. Par exemple, Bill Withers dans Ain't No Sunshine. Le batteur James Gasson est pour une énorme part ce qui rend cette chanson efficace.
Vous diriez que faire de la musique, c'est indissociable de la recherche, de l'expérimentation?
Ah oui, c'est vrai. Très souvent, je me vois plus comme un explorateur, mais pas un explorateur du terrain ou du monde physique, mais dans cette sorte d'espace éthéré où j'essaie de voir ce qui est possible musicalement.
Et ça veut dire qu'il faut toujours se laisser surprendre.
Oui, totalement. Je suis toujours à la recherche de ce sentiment. Je veux dire, ne le sommes-nous pas tous d'une certaine manière? La musique, c'est pour moi le seul moyen de le faire. Mais je pense que nous essayons tous de nous surprendre. Nous sommes curieux de ce que la vie nous réserve et des nouvelles expériences que nous pouvons avoir. Pour moi, beaucoup de ces nouvelles expériences prennent une forme musicale.
James Blake, ça fait une petite dizaine d'années qu'on vous suit et j'aimerais un petit peu rafraîchir la mémoire de nos auditrices et de nos auditeurs en quelques morceaux. James Blake passait d'abord une reprise de la chanteuse Feist. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Et puis c'est ça aussi. Et puis c'est ça, avec Kendrick Lamar notamment, extrait de la bande originale du film Black Panther. Ça aussi. In a world you've grown, few more years to go. Don't let the hurdle fall. So be the girl you love. Allez, une dernière avec Rosalia. James Blake, c'est quand même assez intéressant quand on y pense. Aujourd'hui, vous êtes courtisé par les plus grands en tant que musicien et producteur, alors même que pendant des années, vous avez composé dans votre coin, sans oser montrer votre musique à personne. Pourquoi est-ce que vous gardiez tout pour vous?
Je n'étais pas très sociable, à dire vrai. Maintenant, je suis sélectivement social, ce qui est différent. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout sociable, non. C'est vrai, je trouvais l'idée de collaborer un peu effrayante. Ça signifiait une perte de contrôle, à bien des égards.
Le regard des autres, qu'est-ce que ça représente pour vous, tiens?
Eh bien, je ne l'ai pas très bien supporté pendant de nombreuses années. Et je trouve ça toujours difficile. Je pense que le problème, c'est que la plupart des écrivains et des artistes sont des personnes vulnérables, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes. Et en fin de compte, ce n'est pas une sensation agréable d'être jugé. Ce n'est pas facile de se mettre dans cette situation et de s'ouvrir à la critique. Et parce que vous avez chargé votre musique sur les mêmes plateformes que tout le monde, alors en fin de compte, cela donne aux gens le droit de critiquer. Oui, c'est bien, c'est ça. Mais nous devons gérer nos attentes et gérer notre type d'interaction avec l'Internet et le monde, parce que sinon, ça peut être écrasant.
Vous savez, je vous pose la question parce que ce qui frappe aujourd'hui, c'est la manière dont vous collaborez en tant que producteur et en tant que musicien avec plein d'autres artistes. Kendrick Lamar, Beyoncé, Jay-Z, Brian Eno, Drake, j'en passe. Musicalement, que vous apportent les autres?
Eh bien, simplement des idées que je n'aurais pas eues moi-même et une pléthore de sons, de voix, de textures, d'idées différentes. Et composer des chansons implique des dispositifs et des façons de regarder le monde à travers différents milieux, différentes cultures, et puis des connaissances historiques et sociales, et des choses que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. On ne peut pas apprendre ces choses-là dans un livre. Je pense que ces expériences que je n'ai pas, les expériences des gens qui le mettent sur la table, oui.
Vous savez, quand vous parliez de la vulnérabilité de l'artiste, ça m'intéresse, parce que vous parlez souvent en même temps du pouvoir de la musique sur la vie des gens. Et me vient une question, qu'est-ce qui rend un son puissant, James Blake ?
It's hard to say.
C'est difficile à expliquer scientifiquement, mais il y a des fois où l'accord qui sonne juste quand vous essayez d'exprimer quelque chose transmet quelque chose de très puissant à l'autre bout. Parce que l'intention est purement d'exprimer une émotion. Si vous deviez simplement concevoir une série d'accords sans autre raison que de concevoir une série d'accords, elle n'aurait pas nécessairement un impact émotionnel. Mais lorsque vous ressentez quelque chose à ce moment-là et que vous essayez d'exprimer ce sentiment et que cet accord, cette progression d'accords et ces paroles vous semblent justes à ce moment-là, au fond, ce que vous faites, c'est que vous lancez une capsule temporelle que quelqu'un d'autre peut recueillir et éprouver alors ce même sentiment. C'est un ADN, presque une copie carbone de ce que vous ressentez. Et je pense que c'est très puissant.
Donc la puissance, elle vient de vos émotions à vous.
Oui, comme pour tout. Lorsque les gens se parlent honnêtement, lorsque les gens ont des conversations profondes et sensibles, nous nous rapprochons les uns des autres, nous nous comprenons et nous ressentons la beauté d'une relation humaine. C'est au cœur de toute musique. Et les meilleurs auteurs musicaux sont ceux qui savent le mieux distiller ce sentiment.
Celle qui est impuissante dans cette émission, vous la connaissez, James, c'est la culture et son actualité flasque et peu féconde. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 2 novembre ? L'immense pianiste brésilien Nelson Freire est mort hier à Rio de Janeiro. Il avait 77 ans, complice de Martha Argerich et grand interprète de Chopin notamment. Il avait commencé à jouer dès ses 3 ans, donnant des récitals à 5. Devenu très jeune l'un des pianistes les plus reconnus et célébrés au monde, Freire avait joué avec la Philharmonique de Berlin, l'Orchestre Symphonique de Londres et de Vienne, et même sous la direction de Pierre Boulez. Victime d'une fracture au bras, puis de la pandémie, il ne s'était plus produit en public depuis 2019.
La littérature, personne ne sait ce que c'est. Quand quelqu'un parle de cet endroit-là, il n'arrive pas toujours à se maîtriser. Et ça continuera, et tant pis, ou tant mieux.
Un, c'est bien. Six, c'est mieux. Le mensuel Les Inrecuptibles s'apprête à dévoiler les 6 heureux lauréats de ces prix littéraires. Et on peut vous annoncer, ce matin, en exclusivité dans Boomerang, que c'est Christine Angot, avec Le Voyage dans l'Est, qui remporte le prix Les Inrecuptibles du roman français 2021. Un texte déjà récompensé du Médicis la semaine dernière et en course pour le Goncourt demain. Couvrant les premiers romans, les ouvrages étrangers, les essais et la BD, les prix Un Roc ont aussi choisi de récompenser Dimitri Rouchon-Bory, Ocean Vuong, Mona Chollet et Antoine Maillard. C'est du grand.
Pas de regret. Adjugé 2,3 millions.
Mais où est Andy ? Un collectif new-yorkais a organisé hier la vente de 1000 exemplaires d'un croquis d'Andy Warhol baptisé Fairies et réalisé en 1954 par le pape du pop art. Petite particularité de l'affaire, si tous les dessins ont été vendus au même prix, $250 pièce, un seul était l'original et plus personne ne pouvait discerner le vrai des fausses copies. Une vente aux airs de happening que les organisateurs ont imaginé pour interroger les notions d'authenticité, d'autorité, d'exclusivité qui prédominent sur le marché de l'art. Eh oui, c'est bien elle qui a inventé Noël comme chaque 1er novembre depuis des années. Halloween à peine passé, elle revient ouvrir la saison des fêtes cette année dans sa traditionnelle vidéo postée sur les réseaux. La divine Mariah éclate des citrouilles à la batte de baseball sucre d'orge en robe à paillettes et talons glitter sur son tube All I Want for Christmas is You pour nous remonter le moral et pour nous rappeler que Noël, bah, c'est dans à peine 52 dodo YOLO. Le musicien et producteur James Blake, à mon sens l'un des plus grands aujourd'hui, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour parler de musique. Vous êtes né, James, à la fin des années 80. Enfant, dans quel environnement musical est-ce que vous avez baigné ?
Ah, très musical cet environnement. Mon père est guitariste, Ma maman n'est pas une musicienne professionnelle, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui chante, qui joue des instruments. Et tous les deux, mes parents, lorsqu'ils me chantaient « Joyeux anniversaire », eh bien, nous nous chantions « Joyeux anniversaire » à la maison. Nous le faisions toujours en harmonie avec l'autre personne. Donc, je faisais la voix haute, mon père chantait la dominante, et vous savez, dans la voiture, nous chantions des chansons en harmonie à trois voix. Ils m'ont appris à chanter en harmonie. Ils chantaient deux notes et je devais trouver la troisième.
Mais la question que je me pose, puisque votre père était guitariste, c'est pourquoi le piano plutôt que la guitare ?
J'ai choisi le piano parce que il me semble le plus logique. Je pense que la guitare a une logique étrange. Je ne la comprends pas encore vraiment. Elle ne me semble pas naturelle.
Et puis c'est vrai que le piano se prête peut-être plus facilement à un enseignement classique, cette formation de pianiste classique hein, que vous avez eue. Dans quelle mesure est-ce qu'elle vous sert encore aujourd'hui dans vos propres compositions ?
Elle est dans tout ce que je fais, je pense, cette formation classique. Parce que c'est le vocabulaire que j'ai ensuite utilisé pour parler. Et en partie ça, en partie le folk, en partie la soul, le R&B, le gospel. Donc c'est comme si j'avais un mélange de mots à ma disposition.
Et je sais que vous avez par exemple une passion pour la musique classique française, pour les Debussy, Fauré ou Satie. Chez Eric Satie, vous évoquez notamment certains accords qui vous parlent tout particulièrement. À quels accords est-ce que vous pensez là tout de suite ?
Eh bien je dirais la cinquième gnossienne. Je pense que la Gnossienne 5 est ma pièce préférée d'Eric Satie. C'est pas spécialement un de ses accords, c'est plus son imagination pour les accords. Il s'agit des règles de la musique classique de l'époque auxquelles il ne veut pas se conformer. Et il semble presque se moquer des règles et créer un sens entièrement nouveau du plaisir de l'exploration autour de l'harmonie. Je veux dire, des progressions d'accords sans aucun rapport entre eux, en décidant simplement, bon, eh bien, je ne vais pas aller directement à cet accord absolument abstrait, et puis reprendre. Et ça, c'est juste amusant.
On parlait tout à l'heure du pouvoir de la musique. Ces accords, quels effets est-ce qu'ils ont sur vous ? Qu'est-ce qu'ils vous font ressentir ?
Quand je les entends, je me dis, ah, quelqu'un a compris. Ce type s'intéressait à autre chose qu'au centre absolu de la musique. Il voulait voir ce qu'il était possible de faire. Il était intéressé à s'enthousiasmer lui-même.
Alors évidemment, votre univers, James Blake, il ne s'ancre pas seulement dans le classique, il s'ancre aussi dans la musique électronique. Quand est-ce que vous avez compris qu'on pouvait faire de la musique avec un ordinateur ?
Oui. Mon père faisait de la musique sur ordinateur. Et je voyais donc qu'il enregistrait. Il a fait des albums sur ordinateur. J'ai eu la chance d'avoir cette expérience en grandissant et de savoir que c'était possible. Et puis quand je suis arrivé à l'université, les possibilités se sont multipliées par 1000. Parce que tout à coup, nous avions des synthétiseurs sur ordinateur. Il s'agissait de recréations numériques de synthétiseurs analogiques que l'on pouvait maintenant avoir à un prix abordable. Je n'avais pas d'argent pour acheter un studio avec tout l'équipement nécessaire. Mais ce que j'avais, c'était un MacBook. Et c'était suffisant.
C'est un instrument de musique pour vous aujourd'hui ?
Eh bien, franchement, j'essaie de rester aussi loin de l'ordinateur que je peux. Je pense qu'il nous déconnecte. Je pense que j'ai réussi à faire de la musique dans ma carrière, parfois grâce à l'ordinateur et parfois malgré l'ordinateur. Car il y a eu des moments où j'ai fait beaucoup de musique qui n'est jamais sortie parce qu'elle semblait déconnectée. Beaucoup de gens se font probablement une fausse idée parce qu'ils voient que j'ai sorti beaucoup de musique faite sur ordinateur. Mais en fait, la plupart de la musique que j'ai faite n'est pas sortie. J'ai été induit en erreur parce que si vous ne faites que regarder un écran d'ordinateur, vous finissez par perdre votre humanité et vous perdez votre capacité à compatir et à ressentir profondément les choses.
Et c'est là-dessus que repose une bonne chanson pour vous, James Blake ?
Oui, je pense que c'est le cas. L'ordinateur est aujourd'hui une sorte de force motrice qui déconnecte le son de la musique. Et ironiquement, je suis maintenant en faveur autant que possible de ne pas utiliser l'ordinateur.
On va en reparler évidemment juste après Say What You Will, peut-être l'une des plus belles de votre nouvel album Friends That Break Your Heart. Vous êtes sur France Inter avec James Blake. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
I've been normal, I've been ostracized, I've watched through a window as my young self died. I've been popular with all the popular guys. I gave them punchlines, they gave me warning signs. I look okay in the magic out in the right light with the right amount of power, and I'm okay with the life of the sunflower, and I'm okay with the life of a meteor shower. So say me what you will.
On est quelque part entre le poète romantique, un personnage tout droit sorti de l'imagination de Tolkien, et l'adepte du jus détox, citron, gingembre et céleri branche, la rousseur soyeuse, le profil aiglon et l'œil Peter Pan, le musicien James Blake, invité de Boomerang ce matin pour parler de son nouveau disque Friends That Break Your Heart. Et ce qui frappe, à nouveau, et on n'en a pas encore parlé, c'est quand même votre voix, James, la manière dont vous passez d'une voix grave à une voix de tête. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter ?
J'ai vraiment commencé, je veux dire sérieusement, qu'à l'âge de 10 ans. Mais je chantais depuis que j'étais beaucoup plus jeune que ça. Ma maman m'a enregistré quand j'étais dans mon bain, à l'âge de 3 ans, en train de chanter « Sitting on the back of the bay » d'Otis Redding.
Wow.
Et j'ai essayé encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive.
Et est-ce que vous chantiez en voix de tête déjà ?
J'étais pas très bon en contre-ténor quand j'étais plus jeune. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'explorer et l'exploiter.
Alors c'est assez passionnant parce que cette voix, on l'entend, est très éloignée de la voix que vous avez quand vous parlez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'utilisez, cette voix de tête ? Quelle expérience physique est-ce que c'est que de chanter avec cette voix-là, James Blake ?
J'ai l'impression que ça projette une partie légèrement différente de moi, d'une certaine manière. Je pense que ça dit quelque chose que je ne peux pas dire en mots. C'est peut-être pour ça que je le fais.
C'est un instrument aussi qui vous permet d'expérimenter la voix.
Oui, c'est ça. Je peux l'expérimenter à travers ma propre voix. Je peux l'expérimenter sur un ordinateur. Je peux l'expérimenter à travers un matériel musical. Mais je pense qu'on l'expérimente aussi avec des paroles, avec la vitesse, le timbre et toutes ces différentes choses. Je pense qu'on peut continuer à expérimenter jusqu'à la mort parce que, en fin de compte, la voix change toute la vie. Elle change tout au long de la vie. Elle devient plus profonde, plus rauque. J'ai hâte de vieillir pour pouvoir chanter d'une nouvelle manière.
Vous la regardez changer ? Vous l'écoutez sans cesse, votre voix à vous ?
Oui. Oui, je le fais. Je ne me compare pas trop avec quand j'étais plus jeune. Je ne souhaite pas qu'elle soit plus... parce qu'en vieillissant, elle devient légèrement, je pense, légèrement moins malléable, en quelque sorte. La voix est une empreinte de qui vous êtes. Donc quand elle change, c'est parce que vous changez.
Alors c'est passionnant, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une voix vous émeuve, James Blake ?
Parfois, c'est inattendu. Ça peut vous surprendre, n'est-ce pas, comme une voix. Parfois, vous entendez une voix et vous dites, « Waouh, c'est un peu inhabituel, je ne suis pas sûr d'aimer ça. » Et puis, après quelques écoutes, vous êtes accroché. Et vous réalisez que la personne qui parle d'une certaine manière à travers cette voix, c'est à vous qu'elle parle.
La voix de Joni Mitchell, par exemple, qu'est-ce qui vous émeut dans sa voix ?
Sa voix d'une pureté angélique et une sorte de précision qui me touche directement. Et certains de ses textes sont aussi tellement spontanés. Elle donne l'impression d'être une vraie chanteuse folk. Elle parle et raconte une histoire. Elle vous la transmet. On a l'impression qu'elle vous la raconte. Et on n'a pas toujours l'impression qu'elle chante. On a l'impression que c'est comme ma tati qui me raconte une histoire.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in Laval. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada.
A Case of You, cette chanson, James Blake, qui est, je vous le dis, l'une des chansons qui compte le plus pour moi, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous ?
Eh bien, ça raconte l'histoire de quelqu'un. Elle est rebelle. Mais elle est en quelque sorte amoureuse de cette personne, mais ça se termine. Et j'ai l'impression qu'il y a un mélange complexe de sentiments. La façon dont elle voit à travers son romantisme stupide au début, comme juste avant. Notre amour se perd. Je suis aussi immuable que l'étoile du berger. Immuable dans l'obscurité. Mais c'est où ça ? Si tu me cherches, je serai au bar. C'est une incroyable prise de râteau de quelqu'un qui est désespérément romantique, mais pas réaliste. Et elle a juste sauté sur l'occasion et le fait de façon réaliste. Et en fait, toute la chanson est réaliste.
Entre nous, combien de fois est-ce que vous l'avez écouté, cet album Blue de Joni Mitchell, James Blake ?
Ah, je dirais 1000 fois. Je pense que c'est probablement le plus grand album pour moi.
Quel réconfort est-ce qu'il vous a apporté, ce disque ?
Oui, c'est vrai, et ça le fait toujours. Je pense que le fait qu'une grande partie de l'album soit dépouillée en termes d'instrumentation, moi j'aime les morceaux juste avec le piano et la voix. J'aime ce que les gens peuvent faire juste avec ça.
Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de réconfort, James ?
Eh ben, écoutez,
We all do.
On aime tous ça, non ? Je pense qu'un grand album, c'est un rappel que vous êtes en vie. C'est un rappel de toutes les fois où vous l'avez écouté avant, et ça devient un témoin de ces années. Et je me souviens de tant de nuits à écouter cet album, à des moments tristes, à des moments heureux. Mais le fait que j'ai écouté l'album dans ces moments-là signifie que ces moments ont existé. Et chaque fois que j'écoute l'album, je me rappelle que tous ces moments-là ont existé, et que moi je suis là, et que je suis toujours là.
C'est ce que vous essayez de produire quand vous écrivez un album, James Blake, de faire en sorte qu'on se sente vivant aussi?
Oui, absolument. Et qu'on se sente présent, vu, entendu, et qu'on puisse explorer nos propres émotions à travers cette œuvre, car c'est la raison d'être de la musique.
Merci infiniment, James Blake, d'être venu faire un tour dans Boomerang, et merci à votre interprète ce matin, le très blakien Michel Zlotowski. Je rappelle que Friends That Break Your Heart, votre cinquième disque, vient de paraître, que c'est assez incroyable et qu'on vous retrouvera, si on a de la chance, le 7 mai prochain, en concert à la salle Playel. Tout de suite, les médias, juste après ça.
I wore your favorite clothes. I said the things you'd say, but that was yesterday. So if you loved me so much,
why'd you go?
Why'd you go?
Keep yourself. Keep on lying, oh, I can only be what I am. Diving, smiling, life is not the same. Boats were meant to see. You lost me willingly, but that was yesterday. You knew it would get dark. You made sure I would need you in every way. So if you loved me so.
Life is not the same. James Blake, 9h presque 40, ça y est, sur France Inter.